Olivier Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour, merci pour l'invitation.
Bienvenue à Pixels et Préjugés. D'ailleurs, première fois, je pense, dans l'histoire de l'émission, qu'on n'est pas à distance, qu'on est sur place. Donc, évidemment, on a choisi un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de bruit et de musique pour rendre ça plus vivant et plus véridique. Non, je fais des blagues, mais bref. Très content de t'avoir comme invité donc au podcast. On a déjà parlé de toi sur Pieuvre. On a déjà parlé notamment de ton précédent jeu, donc La Vallée qui murmure. On avait fait une critique. Je pense que je t'avais reçu en entrevue à l'époque où tu faisais ta campagne de financement pour ce jeu-là.
En 2020.
Et donc, c'est ça. Là, on se reparle aujourd'hui parce que tu viens d'annoncer Cauchemar d'octobre, qui est ton prochain projet. Bon, ceux qui te connaissent un petit peu savent que tu aimes l'histoire québécoise, s'intéressent à ça beaucoup. Évidemment, La Vallée qui murmure, ça se passait bon, dans la campagne québécoise du 19e siècle. Là, évidemment, c'est plus près de chez nous, la crise d'octobre, donc 1970. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Qu'est-ce que c'est exactement?
Cauchemar d'octobre, c'est une tentative d'actualiser la mémoire de ceux qui ont vécu la crise d'octobre à travers le jeu vidéo. Donc, je prends toujours la perspective d'horreur. Mm-hmm. Ça reste un jeu d'horreur, mais ça reste un jeu historique. Où est-ce que mon but, c'est de parler d'une façon nouvelle des événements de la crise d'octobre. Le projet a commencé en 2020, en réalité, quand je travaillais sur La Vallée qui murmure, puis mm-hmm. j'avais entendu le premier ministre du Canada refuser de s'excuser auprès des victimes de la crise. Et ce qui m'avait choqué, outre ses propos, c'était le manque d'intérêt que les plus jeunes avaient pour ce qu'était la crise. Mm-hmm. Puis je me suis dit, faut parler à cette nouvelle génération-là de Québécois qui connaissent peu ou mal les événements. Puis il faut réactualiser les événements de la crise.
Mais effectivement, bon, ça fait 53 ans maintenant, presque jour pour jour. Mm-hmm. Et c'est ça, à l'exception des cours d'histoire, ou à moins d'être un partisan de l'indépendance québécoise, par exemple, puis d'être très attaché à cette question-là de mémoire, puis bon, de toute la question, justement, du FLQ, puis bon, du mouvement d'indépendance du Québec, dans ce cas-là, mal viré, on va se le dire. On en parle peu, où on a l'impression que c'est des souvenirs de vieux politiciens qui jouent un peu à la belle-mère ou quoi que ce soit. Cette idée-là de transposer ça dans le jeu vidéo, parce que tu peux pas... Bon, tu parles d'un jeu d'horreur, clairement, ça sera pas que les événements d'octobre 70. Il y a quelque chose de plus. On n'est pas juste dans la GRC débarque chez nous pour nous embarquer.
Ça va être un jeu point and click.
D'accord.
Donc, point and click, faire ça sommairement, c'est un genre de jeu très narratif qui mélange exploration et résolution de puzzle. Le côté horreur, ça vient symboliser l'état d'esprit des Québécois à ce moment-là. Moi, mm-hmm. l'horreur, j'utilise vraiment comme symbole, puis c'est même la façon que la majorité d'auteurs de livres ou de films d'horreur l'utilisent. L'horreur, les monstres, c'est des symboles, comme une sorcière. C'est pas une femme avec un balai puis un chat noir. Ça représente la peur. La peur de la liberté de la femme qui mm-hmm. sort à l'extérieur du cadre puritain de l'époque. Puis là, je pourrais parler plein d'exemples, la guerre des mondes, comment les extraterrestres sont représentés différemment selon l'époque qu'on le fait, qu'on l'avait fait dans les années 50, les extraterrestres envahissaient la Terre d'une façon militaire, par une invasion par la voie des airs. Mm-hmm. Ça représentait la peur de l'URSS puis du communisme, puis que les États-Unis soient envahis d'une façon militaire organisée. Quand ils l'ont fait en 2005, c'était plutôt c'était des extraterrestres qui sortaient de la Terre. Fait que ça, c'était post-11 septembre. Fait que là, ça représentait la peur du terrorisme qui est ancré sur le sol américain. Mm-hmm. Fait que moi, j'utilise l'horreur comme la Vallée qui murmure. Je parlais surtout du rapport entre les Québécois et le clergé. Puis j'avais créé un monstre qui représente un sentiment de honte qui habitait chacun des habitants de mon petit mm-hmm. village de Sainte-Monique-des-Monts. Donc, j'ai oublié ta question.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu rajoutes une dimension surnaturelle. Là. Il y a une symbolique, oui. évidemment, mais comme je disais, c'est pas simplement Moi, je me souviens, mon grand-père était bon militaire au PQ à cette époque-là. Il est allé cacher des livres chez le voisin. C'est pas le, ça, le jeu, là, tu vas pas... T'es pas chez vous dans la crainte que la police débarque pour... Mais il y a peut-être ça aussi, mais il y a quelque chose de plus, là, que tu viens un peu, pas dire améliorer la crise d'octobre, c'est pas... mais rajouter une dimension, encore une fois, allégorique, peut-être, pour rendre ça plus intéressant, plus dynamique. Là.
Oui, je rajoute une dimension allégorique, mais c'est, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de représenter l'expérience des crises d'octobre à travers les yeux d'un Québécois. Québécois moyen. Fait que pas un fitkiss, pas un policier, pas un soldat, pas un politicien. Un Québécois de la classe ouvrière en 1970, comment que lui l'a vécu? Puis ce que tu parles, ton père qui cache les livres chez le voisin, ça peut être quelque chose qui va être représenté dans le jeu. T'as un personnage, il laisse entendre qu'il y avait des livres du Parti pris, puis de la maison d'édition de Parti pris, puis il a voulu cacher ça chez le voisin.
Dans ce sens-là, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, tout va très bien. J'aimerais t'entendre sur ce que tu vas chercher comme source historique, parce que bon, il s'est écrit beaucoup, beaucoup de choses sur la crise d'octobre. Puis encore une fois, ça teinte encore aujourd'hui notre vision de la politique québécoise par rapport à la politique fédérale. Bon, tu disais tout à l'heure, Justin Trudeau, il n'est pas là, c'est Trudeau, ça, c'est bien ça. Bon, évidemment, Trudeau fils en plus. Mm-hmm. À l'époque, c'était Trudeau père qui était là. Avec son fameux « Just watch me ». Bon, où est-ce que tu t'abreuves? Parce qu'il y a énormément de choses, il y a peut-être risque de se perdre dans ces documents historiques-là. Comment est-ce que tu sélectionnes ce qui va te servir?
En deux parties. La première partie, c'est les documents historiques, comme tu dis. Donc, c'est autant, vu que je m'intéresse du point de vue plus personnel de la crise d'octobre, je vais aller voir dans les biographies de personnes qui l'ont vécu. Fait que, par exemple, Gérald Godin ou la Pauline Julien ou Gaston Miron. Fait que ça, c'est pour le côté plus personnel. Pour tout ce qui est historique, ben là, il y a le livre de Louis Fournier, Effet de cul, mouvement d'un, histoire d'un mouvement clandestin. Il y a le livre de Gilles Falardeau sur les 50 ans de la crise d'octobre. Il y a différentes sources que je vais puiser. Mais je ne vais pas seulement prendre mes informations à partir de sources historiques. Je vais aller chercher l'information directement chez les gens. Donc, dès le début de 2024, je commence une ronde d'entrevues où est-ce que je vais parler à différentes personnes qui ont vécu la crise et aller voir c'est quoi, comment ils l'ont vécu. Puis là, je parle pas seulement des prisonniers politiques, je parle vraiment comme je pourrais parler à quelqu'un qui avait eu 10 ans quand ils ont vécu la crise, puis juste me raconter c'était quoi l'ambiance à Montréal, as-tu des moments marquants. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à m'écrire sur les réseaux sociaux en privé, genre mon père l'a vécu, il était emprisonné tel nombre de temps, il y avait beaucoup d'hélicoptères à longueur de journée, ça c'est un détail que tu devrais mettre dans ton jeu, la présence continuelle des hélicoptères. Il y a des membres de la famille, de membres du FLQ qui m'ont écrit, raconté leur histoire. Sans donner de nom, il y a un des membres qui s'était enfui en Algérie en embarquant dans un bateau cargo au port de Montréal. Fait que déjà, avant même que je commence mes entrevues, le monde commence à me contacter. Puis ce que je vois, c'est pas juste du monde, c'est pas juste des gens qui me connaissent. C'est quand ils ont entendu parler du fait que je voulais raconter la crise à nouveau en jeu vidéo, même si eux autres, c'est pas des joueurs, ben, ils se disent « cool, une nouvelle façon de parler de notre histoire nationale », puis ils veulent participer en me donnant des informations. Mais je vais continuer le processus autant qu'il faudra pour avoir une représentation la plus fidèle possible de la crise d'octobre.
On en parlait un peu avant d'enregistrer. On se disait, t'es l'un des rares développeurs québécois qui développe des jeux qui parlent de l'histoire du Québec. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y en a si peu de titres qui... Parce que notre histoire, veut dire, il y a du stock à raconter. Là, on n'est pas... Il y a l'histoire de plusieurs siècles d'histoire, bon, puis ça a été mouvementé à plusieurs moments au fil du temps. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a si peu de titres, si peu d'offres dans ce domaine-là?
J'ai une réponse pour les gros studios. Les gros studios qui font des jeux avec un budget de plusieurs millions de dollars, avec une équipe de 500 personnes, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est prendre le moins de risques possible. Et si... juste leur contexte, le contexte du jeu est un risque, ben ils vont pas le faire. C'est pour ça que les jeux vidéo AAA sont si peu politisés. C'est que les investisseurs aiment pas le risque, ils veulent être sur un terrain le plus sécuritaire possible. Mais c'est un choix que... Tu sais, si on n'a pas eu d'Assassin's Creed à Montréal, c'est un choix qui est conscient qui a été fait. Tu sais, c'est impossible qu'un studio de développement basé à Montréal qui veut faire un jeu des années fin 1700 puis qui décide de faire leur jeu aux États-Unis plutôt qu'au Canada qu'au Québec. C'est un choix qui est conscient qui est fait.
Mm-hmm. On n'aura pas d'Assassin's Creed Grande Noirceur, par exemple, avec...
non, mais ça, c'est le genre de jeu. Non, on ne peut pas s'attendre à ce que... Tu sais, Ubisoft Montréal, c'est le studio québécois, mais ça reste français.
Mm-hmm.
On ne peut pas s'attendre à ce que des compagnies étrangères parlent eux-mêmes de notre propre histoire nationale. C'est quelque chose que nous-mêmes, on doit le faire.
Oui.
Puis la meilleure façon de le faire, c'est à travers le jeu vidéo indépendant, où est-ce qu'on a une liberté presque totale. Moi, je fais les jeux... je fais les jeux que je veux faire sans attache ou quoi que ce soit. Maintenant, la raison pourquoi il y a si peu de jeux vidéo, de studios de jeux vidéo indépendants qui parlent de l'histoire du Québec, je pense que c'est aussi une question, peut-être une question, un manque de volonté ou un désintérêt. Je l'explique mal, mais j'espère de commencer quelque chose. Mm-hmm. Puis je suis pas le premier à le faire non plus. Il y a eu Sang-froid. Des années 2010 qui était sorti du studio Artifice. Il y avait eu Kona pas longtemps après, il y a eu Kona 2 dernièrement, il y a un nouveau jeu, le nom m'échappe, mais qui se passe en Nouvelle-France, qui va sortir l'année prochaine sans doute. Donc quelque chose qui commence tranquillement, mais c'est très long à partir, cette machine-là, d'intéresser premièrement les développeurs au Québec, puis pour qu'on intéresse ensuite les joueurs au Québec.
Mais est-ce que tu sens à ce moment-là une pression en disant, si moi j'arrive pas à faire quelque chose qui fonctionne, les gens vont se dire, ça marche pas, il y a pas de marché, il y a pas d'intérêt, puis on passe à la suite, puis on laisse tomber ce domaine-là?
Non, mais je pense que toute forme d'art qu'on essaie de nationaliser, c'est toujours assez long. Comme le cinéma québécois, on n'est pas passé de Les Racketeurs à mon oncle Antoine en 5 ans. C'est un long processus. Là, on est au tout début du processus. Mm-hmm. Puis je veux dire, quand on regarde les jeux québécois qu'on fait, là, je parle québécois comme sujet, c'est des jeux de grande qualité. Là. Kona, c'est un excellent jeu. Je pense que La Vallée qui murmure, les critiques ont été assez positives, moi-même très positives. Donc, on est quand même bien parti, mais il faut juste alimenter la discussion. Puis mon rôle en tant que créateur de jeux, puis en tant que porte-étendard du jeu vidéo national québécois, bien, c'est d'en parler à toutes les occasions possibles, puis dire aux médias, puis aux personnalités publiques, intéressez-vous à ce qui se passe en jeu vidéo aussi. On se désole continuellement du manque d'intérêt pour les jeunes, pour la culture québécoise, mais on ne peut pas se désoler de ce fait-là, puis ignorer les nouvelles formes d'expression artistique qui voient le jour. Puis on l'a fait avec la bande dessinée. Ça a pris longtemps avant que la bande dessinée québécoise commence, puis qu'elle commence à se faire une place sur la place publique. Maintenant, c'est le jeu vidéo qu'il faut laisser une place pour que ça puisse prendre son envol au même titre que la bande dessinée québécoise.
Puis en même temps, je veux dire, le jeu vidéo, c'est presque aussi vieux que la crise d'octobre, sinon plus. Là, ça fait 50 ans que ça existe. Bon, je pense pas que sur Atari, on aurait pu vraiment représenter la profondeur des enjeux politiques et sociaux de la crise d'octobre. Mais... le médium existe et ce n'est plus, ça fait très 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 longtemps que c'est plus juste une histoire d'adolescents dans leur sous-sol chez leurs parents. Là, on est, toi et moi, on a un certain âge, je pense dans la trentaine. On est des joueurs, aguerris peut-être, en tout cas passionnés certainement. Puis on n'est pas les seuls, puis évidemment, toutes sortes de gens qui jouent des jeux vidéo. Donc pourquoi effectivement ne pas aller voir les jeunes, les moins jeunes aussi, dans ce qu'ils consomment, dans ce qu'ils regardent, dans ce qu'ils font, plutôt que s'en tenir effectivement au... Pas que c'est pas important d'avoir des livres ou des films ou quoi que ce soit, mais comme tu l'as mentionné, c'est une forme d'expression artistique, le jeu vidéo.
Oui, puis je pense pas qu'au Québec, on peut se permettre d'être autre chose qu'à l'avant-garde quand il y a des nouvelles formes d'expression artistique qui voient le jour. Comme société minoritaire, on doit être continuellement alerte pour intégrer ces formes-là à notre... paysage culturel. Je pense que c'est essentiel pour la culture québécoise, autant au niveau national qu'international. Le jeu vidéo, c'est une excellente façon d'exporter de la culture. C'est mondial de facto. Quand un jeu sort, c'est pas comme un livre qui va sortir d'une façon locale, mm-hmm. puis peu à peu faire son chemin dans d'autres pays. Un jeu vidéo, quand ça sort partout dans le monde. Puis il faut l'utiliser.
D'ailleurs, parlant de sorties partout dans le monde, bon, évidemment, La Vallée qui murmure est sortie sur Steam, entre autres. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu de rétroaction, justement, des publics qui n'étaient pas québécois? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que ça t'a agréablement surpris de voir?
Oui, ça m'a agréablement surpris. J'ai eu beaucoup de rétroactions, beaucoup d'Américains. Okay. Qui me disait, mon Dieu, ça me rappelle mes voyages quand je partais du Maine puis je m'en allais en Gaspésie, mm-hmm. quand on passait à travers des petits villages, ça me rappelle ça. Beaucoup de rétroactions aussi de la part des Français, des Belges, en fait de tous les pays francophones. J'ai eu un joueur, je le raconte souvent parce que ça m'a touché, là. C'était un joueur... À chaque fois que je raconte l'histoire, je change de nationalité parce que je suis jamais sûr, mais je pense que c'était des joueurs portugais.
D'accord.
Qui conseillaient à un autre joueur de jouer à mon jeu pour pouvoir entendre le français québécois. Mm-hmm. Donc, il pouvait recommander un film, mais non, il a recommandé un jeu parce que c'était sans doute son passe-temps préféré.
Oui.
Donc oui, ça a une bonne portée, mais ce que j'entends souvent quand je parle de ça, c'est... Là, je retourne un peu sur l'aspect culturel du jeu vidéo. Ah,
c'est,
ça reste des jeux. Comme si c'était,
c'était moins
un, jeu, un jeu de quilles ou que c'était moins important. Mais ce que je leur réponds toujours, c'est le nom, ça veut rien dire. On dit jeu vidéo, mais comme qu'on compare, en anglais, on dit un movie pour mm-hmm. un film. Un movie, c'est une image qui est en mouvement.
Ouais.
Puis l'attrait initial d'un film, d'un movie, c'était voir à l'écran des images qui bougeaient.
Oui.
Aujourd'hui, c'est encore ça, mais c'est devenu beaucoup plus avec le son et avec les intertitres. Donc, quand les créateurs de films ont commencé à raconter des histoires, mais c'est mm-hmm. la même chose en jeu vidéo. Ça commençait avec des jeux. C'était uniquement... Parfois même, c'était des jeux qui étaient retranscrits d'une façon vidéo. Puis c'est devenu, à travers les années, puis surtout à travers les 15-20 dernières années, c'est devenu une forme d'expression comme une autre.
Mm-hmm.
Ce qui s'est passé, c'est que, comme le cinéma des années 50, les méthodes de production se sont démocratisées. Puis soudainement, n'importe qui pouvait devenir créateur de jeux, comme n'importe qui à l'époque pouvait devenir cinéaste avec une caméra de 4000$ mm-hmm. et pouvait faire du cinéma direct. Fait que c'est la même chose. Fait qu'il faut juste qu'au Québec, on fasse le déclic. Puis c'est un déclic qui va se faire. Puis c'est, mon but, c'est de participer à cet événement-là. Mais il faut continuer à pousser quotidiennement comme je fais.
Tu es le patron, en fait, tu es ton propre patron oui. au studio Chien d'Or. Donc, tu es le seul employé du studio. Est-ce que tu as l'impression des fois, parce que bon, tu te dis, non seulement là, tu as la création du jeu avec bon la question des mécaniques de jeu, tu sais, le B.A.B.A., le technique, mais là, tu as tout l'aspect, comme tu l'as mentionné, historique, culturel, sociétal par-dessus. Est-ce que des fois, tu te dis, voyons, dans quoi est-ce que je m'embarque? Est-ce que je devrais pas mieux faire un truc, justement, un jeu de quilles ou un beat'em up ou un FPS ou quelque chose de même? Est-ce que tu te dis, bon, ben j'aimerais ça des fois juste... Ouais. Prendre un matru dans Unity, un engin graphique, puis là, mettre un autre jeu indépendant de survie avec des zombies, puis du crafting, puis...
Mais c'est sûr que financièrement, ce serait plus facile. Je suis pas le seul dans le studio. J'ai aussi un collègue qui s'occupe okay. de tout ce qui est marketing. Et c'est quelque chose qui est multiple parce que je suis pas du tout quelqu'un qui est marketing au départ. Moi, je le fais par conviction, comme... Mm-hmm. Je pourrais faire autre chose en ce moment, beaucoup plus lucratif que faire du jeu vidéo national québécois. Je pourrais travailler dans un studio AAA. Je pourrais faire des jeux indépendants, rester mon propre patron, mais faire des jeux très commerciaux,
ouais.
En naviguant sur des vagues, en faisant des jeux... puis là, je s'entends pas de lancer du monde devant l'autobus, là, mais en faisant des jeux rapidement... Mais c'est pas ça qui me tente. Je veux dire, si je me ramasse dans une situation où est-ce que je dois faire ça, je préfère faire autre chose
mm-hmm.
de mais rester proche de la culture québécoise. Ouais. Je veux dire, le jeu vidéo, c'est ma façon d'être proche de ma culture. Donc, pour moi, c'est hors de question que je fasse autre chose que ça. Puis si je fais autre chose, bien, ça va être complètement différent.
Parlant de d'argent, parlant de structure, de vraiment, comme justement, financement, tout ça, il y a une campagne Kickstarter qui est en cours pour mm-hmm. Cauchemar d'octobre. Mm-hmm. Si mes souvenirs sont exacts, ça avait été un petit peu rock'n'roll pour la campagne de financement de la Vallée qui murmure. Je pense qu'il y a eu quelques écueils. Est-ce que là, tu te sens plus confiant? Tu dis, bon, ben, j'ai ce jeu-là dans mon bagage. Je peux dire, regardez, j'ai réussi. Ça a été bien reçu. Ça a fonctionné. Donnez-moi cette fois-ci, je vous invite à être plus généreux ou à contribuer si vous ne l'avez pas déjà fait. Est-ce que tu penses que ça va être plus simple maintenant?
Mais ça reste rock'n'roll parce que je suis très niche. Okay. Dans le sens, tu sais, le jeu vidéo national, c'est niche, puis je fais des point and click, ce qui est encore plus niche. Mais par contre, je dois dire que le Jello Punk Plus, mm-hmm. que voilà 3-4 ans, quand j'avais commencé, puis je parlais de jeux vidéo national, le monde était un peu indifférent. Maintenant que j'ai quelques articles dans les journaux qui sont apparus, que je fais quelques interventions publiques, souvent, ils vont avoir une moins de réticence mm-hmm. à m'écouter. En termes financiers, ça se passe beaucoup mieux que voilà 4 ans. Ça reste difficile, mais c'est de plus en plus facile. Mm-hmm. La bonne nouvelle, c'est que c'est de plus en plus facile. Moi, je continue à pousser le temps qu'il faudra. Puis j'ai déjà dit au monde alentour de moi, je veux dire, c'est quelque chose que je vais toujours faire, ou du moins, je vais le faire juste à temps que j'ai l'intérêt de le faire.
Ouais.
Puis s'il faut que je le fasse comme deuxième job, ben ça va être ça. Mm-hmm. S'il faut que je le fasse le soir entre 10h puis minuit chaque jour de la semaine, puis faire un jeu aux 6 ans, ouais. ça va être ça aussi. Pour moi, je le fais, tu sais, j'aimerais ça en vivre. Puis j'en vis en ce moment, mais c'est pas, il n'y a rien ouais. d'assuré. Mais je le fais avant tout par conviction. Mm-hmm. Je sais que pour le rayonnement du Québec, nationalement puis internationalement, le jeu vidéo, c'est important. Puis je dois en parler puis je dois le démontrer.
En tout cas, c'est tout à ton honneur. je pense que chez Pierre, on connaît un peu ça. Le projet fait après les heures de travail et en espérant que pouvoir en vivre. Peut-être une dernière question. À t'écouter, puis c'est pas aucunement un jugement, mais on comprend que tu as un positionnement, je veux pas dire idéologique, mais positionnement politique un petit peu plus favorable, mettons, à l'indépendance, un petit peu plus favorable à, bon, dans le contexte de la crise d'octobre, qui est, c'est délicat, on peut le dire.
Oui.
Est-ce que tu as peur que y a des gens qui disent, bon, ben c'est présenté de façon trop favorable aux indépendantistes, ou est-ce qu'il est là à ce moment-là qui disent, ben moi ça m'intéresse pas parce que c'est pas ça l'histoire, ça déforme les propos, ça déforme la réalité. Est-ce que tu as cette inquiétude-là où tu te dis, mon travail va parler de lui-même, puis ça va être présenté
Mais mon travail va parler de lui-même, mais aussi je dis depuis le début que j'ai annoncé le projet que la perspective que j'utilise, c'est la perspective du Québécois moyen. Mm-hmm. Qui l'a vécu, je m'intéresse au FLQ, je vais en parler, je vais parler de leur motivation, mais c'est pas le sujet central. C'est beaucoup plus proche de Les Ordres, le film de Michel Brault, que le film Octobre de Pierre Falardeau. Je m'intéresse vraiment aux civils, comment ils ont vécu ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont essayer de faire des amalgames, puis il y en a déjà un petit coon sur Twitter qui s'est essayé.
C'est
Twitter, mais moi je suis très clair, mais je suis confiant que le jeu va parler lui-même, mais je suis aussi conscient du fait que il y a des gens pour eux que ça va être une cime facile à essayer de discréditer.
Donc, Cauchemar d'octobre, sortie prévue pour 2025. Mm-hmm. Si tout se passe bien, évidemment. Oui. Il va y avoir, comme tu avais fait pour La Vallée qui murmure avec Le Murmureur, il va y avoir un prologue, donc à Cauchemar d'octobre. Sortie 2024, c'est bien ça? Donc l'année prochaine?
Oui. Oui.
D'accord. Et comme auparavant, quelques dollars, après ça, ça va être une espèce de démo payante, finalement, un peu? C'est un espèce de... pour montrer un peu comment ça fonctionne? Puis...
Non, ça va être beaucoup plus complet que le Murmureur. Okay. Ça va être aussi plus cher, parce que ça va être un jeu de la même taille que La Vallée qui murmure.
Ah, d'accord.
C'est vraiment une partie 1, cette fois-ci. Okay. Tu sais, le Murmureur, c'était moi qui se trempais un pied dans l'eau. Dans L'Abîme du rêve, qui est le nom du prélude, ça va être un jeu à part entière, une partie intégrante de Cauchemar mm-hmm. d'Octobre. Ça va pas être nécessaire d'avoir joué dans L'Abîme du rêve avant de jouer à Cauchemar d'Octobre, mais ça va être plus complexe.
Okay. Ouais. Puis est-ce que tu reprends, ça c'est vraiment une question très technique, mais mm-hmm. est-ce que tu reprends le même engin graphique? Est-ce que tu... parce que bon, ça je te l'ai pas demandé au cours de notre vie, mais la question technique, bon, j'imagine que t'as un engin que t'achètes les droits d'utilisation, puis bon. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu codes toi-même? Comment ça fonctionne?
J'utilise Unity
d'accord.
comme engin. Tout le code, c'est moi qui le fais, mais je vais réutiliser, mettons, 90% du code existant. Mm-hmm. Comme mon but, c'est pas de réinventer la roue là, oui. à chaque jeu, c'est de raconter des histoires différentes. C'est pour ça que c'est encore un point and click.
Oui.
Mais ça va être un jeu entièrement différent de La Vallée qui murmure, à part les bases qui oui. vont rester les mêmes.
Olivier Leclerc, merci beaucoup d'avoir merci. Été avec nous aujourd'hui.
Donc, le jeu est sur Kickstarter, oui. Cauchemar d'Octobre. La campagne se termine le 16 novembre.
Voilà. Et est-ce que tu as une cible de financement?
Oui, il y a une cible de 20 000 $
D'accord.
Donc, c'est tout ou rien comme la formule de Kickstarter. Regardez ça.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aussi aux gens qui nous écoutent. Toujours content de faire ça pour vous, bien sûr. En terminant, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast parce que oui, nous sommes toujours sur Facebook. On n'a jamais compris pourquoi on n'était pas bloqué, mais on va en profiter jusqu'à pendant que ça dure. Et évidemment, si vous voulez justement éviter le blocage de Facebook, la censure, toutes ces sortes de choses, éviter que la GRC débarque chez vous pour vous arrêter... sans sommation, abonnez-vous à l'infolettre de Pieuvre, voilà, vous allez sur le site, il y a un formulaire dans la colonne de droite, ça prend quelques secondes, et à chaque samedi, vous avez l'ensemble de nos contenus, donc les articles, les critiques, et bien sûr, les épisodes de podcast. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.